La plupart d'entre eux sont une foule sans discipline, ni expérience des dangers, amolis devant la guerre et mieux formés à la servitude que les esclaves de chez nous. Description des Perses par le rhéteur grec Isocrate dans son livre Panégyrique.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
Les relations entre la Grèce ancienne et l'Empire perse ont été singulièrement marquées par les guerres médiques. Les victoires grecques de Marathon en 490 avant Jésus-Christ, de Salamine en 480 et de Platée en 479 ont fait de la Grèce un rempart qui semblait être le rempart ultime des ambitions perses vers la Méditerranée occidentale. Mais de ces victoires, les Grecs ont également tiré des images, des stéréotypes, des impressions sur les Perses. Or, nous sommes nous-mêmes tributaires de ce que les sources grecques ont dit du monde perse. Or, c'est à ce propos que je vous propose de voir, effectivement, quelles ont été les visions que les Grecs ont pu avoir de l'immense empire perse, dont ils avaient eu la fierté de vaincre les armées lors des guerres médiques. La Perse ne fut pas seulement représentée comme un adversaire invétéré. Elle devint également une patrie de barbares. À l'origine, le mot « barbaros » voulait signifier « celui qui ne parlait pas le grec ». Il y avait donc un sens linguistique. C'était un brin méprisant pour désigner ceux dont le langage était incompréhensible, celui qui ne parlait pas le grec. Mais c'est seulement après les guerres médiques que le mot fut employé pour désigner les Perses, puis finalement, par extension, tous les non-grecs. Aussi, la figure du barbare devint dès lors un sujet central dans les discours grecs. Sa figure structura des genres littéraires comme l'histoire et la tragédie. L'historien Hérodote se fixe ainsi pour ambition de sauver de l'oubli les grands exploits accomplis tant par les Grecs que par les barbares, et de donner en particulier la raison pour laquelle ils se firent la guerre, ce qui fait que Hérodote est une de nos principales sources pour connaître les guerres puniques. C'est donc également un autre élément de l'image que la Perse a pu avoir chez les Grecs, c'était finalement un peuple sans véritable colonne vertébrale, avachi, qui était sous l'influence d'un despote, et finalement les Perses prirent progressivement le relais des monstres de la mythologie, qui symbolisaient l'envers de la civilisation, le chaos, la transgression. Et d'ailleurs, à partir du 5e siècle avant Jésus-Christ, les combats entre Grecs et Perses sont représentés comme les combats des Amazones contre les centaures. Les Perses n'étaient pas seulement des non-Grecs, mais ils étaient des anti-Grecs, voire des anti-civilisations. Sous l'influence athénienne, le Grec représenta le souverain perse comme étant un despote aux antipodes de la démocratie. La Perse n'était pas seulement gouvernée par un roi, elle était un souvenir des régimes tyranniques qu'avaient connus les cités grecques. C'était donc particulièrement vrai pour Athènes, qui avait adopté un régime égalitaire après avoir chassé son tyran Hippias en 510 avant Jésus-Christ. Ce dernier sut d'ailleurs intriguer auprès des Perses, ce qui fait qu'au 5e siècle, se confirma de plus en plus l'image de la tyrannie et de la Perse. D'ailleurs, pour les citoyens qui voulaient éventuellement revenir à un système autoritaire, les Athéniens utilisaient l'expression de médisme, c'est-à-dire l'inspirateur des Perses.
Thank you.
Un autre élément du regard que les Grecs ont porté sur l'Empire perse était le faste, la richesse de ce monde perse. Le butin ramené pendant les guerres médiques avait montré finalement la richesse de ce monde vaincu. Outre les dépouilles des soldats perses, qui se paraient de colliers et de bracelets d'or, les Grecs découvrirent dans les tentes d'officiers des tissus, de la vaisselle, un mobilier d'une splendeur inouïe. De façon moins spectaculaire, les échanges commerciaux avec les différentes parties de l'Empire perse firent régulièrement pénétrer dans l'Athènes classique des étoffes brodées et chamarrées. Ainsi donc, l'Empire perse n'était pas seulement le barbare moqué, voire méprisé, mais également un facteur de richesse. Ses contacts avec les richesses de l'Orient furent à l'origine d'imitations, d'importations de biens matériels, des vases à boire en forme de tête d'animal ou de vêtements pourvus de manches, qui donnèrent lieu à de véritables modes dans les milieux aisés d'Athènes. Loin de mépriser le luxe perse, les riches Athéniens en adoptèrent certaines pratiques. L'élevage de paons, l'usage d'ombrelles, d'éventails, de chasse-mouches. Si ces biens de prestige servirent à distinguer l'élite, s'ils permirent de s'approprier l'étranger pour en conjurer la menace, ils n'en attestent pas moins le grand attrait dont pouvaient aussi jouir les modèles perses. Autre élément qu'il faut bien voir, c'est que la Perse a pu progressivement, en particulier à partir du IVe siècle, devenir un éventuel lieu de conquête. En effet, malgré le slogan qui était souvent avancé à Athènes ou à Sparte, qu'il était nécessaire de libérer les Grecs d'Asie, il y avait derrière sans doute l'idée d'un vrai impérialisme d'expansion sur les côtes ouest de l'Anatolie. Cette libération, d'ailleurs, n'était en réalité souvent qu'un changement de maître. Au milieu du Ve siècle avant Jésus-Christ, des groupes importants d'Ioniens, c'est-à-dire de Grecs vivant dans l'Empire perse, les cités de Milet, d'Érythrée, de Colophon, etc., préférèrent l'Empire perse aux exigences de l'impérialisme d'Athènes, qui finalement était beaucoup plus lourd que les exigences perses elles-mêmes. D'autre part, il faut bien voir que l'union des Grecs face aux Perses était finalement un leurre. En effet, entre les différentes cités grecques, c'est d'abord la rivalité entre elles qui était le plus importante. Et la Perse pouvait devenir, finalement, non pas complètement et totalement un adversaire déclaré, mais éventuellement un allié de certaines cités grecques contre d'autres cités grecques. Les divisions déterminèrent pour une bonne part les attitudes au moment des guerres médiques. Certaines cités se déclarèrent neutres, d'autres se rallièrent même aux Perses dès leur arrivée. De plus, les Grecs d'Asie, étant sous la domination perse, ont fourni des contingents à l'armée du roi des rois, ce qui fait qu'il y avait de nombreux Grecs dans l'armée perse qui combattaient les armées athéniennes tout particulièrement. Par la suite, le souverain perse sut tirer profit des conflits opposant les cités. À partir des années 410, il soutint tour à tour Sparte et Athènes pour mieux neutraliser la plus dangereuse. Et les cités se disputèrent plus d'une fois le concours du roi perse, qu'il fût diplomatique ou financier. Ainsi, nous nous rendons compte que la réalité entre Grecs et Perses est complexe. Elle a été militaire. Ce sont les guerres médiques tout particulièrement. Elle a été aussi, du côté grec, fait de mépris vis-à-vis d'un empire où la population était jugée avachie devant un souverain tout-puissant au moment où la cité athénienne, tout particulièrement, crée un système politique tendant à la démocratie. Mais nous avons vu ainsi aussi que le regard pouvait être autre et parfois envieux, envieux d'une richesse, envieux d'objets d'art, de tissus riches, et que les Grecs ont finalement pris en modèle au cours des 5e et 4e siècles avant Jésus-Christ. Ainsi, comme souvent en histoire, nous sommes tributaires, si j'ose dire, d'une vision des vainqueurs. Nous connaissons les Perses par des textes grecs qui nous les décrivent de manière plus ou moins favorable. Et donc, notre perception est largement influencée par la vision des Grecs. Or, vous l'avez compris, celle-ci était sans doute beaucoup plus diverse qu'on ne pouvait le croire. Mépris, oui, de celui qui ne parlait pas grec, mais aussi fascination d'un des plus grands empires de l'Antiquité, l'empire des Achéménides.